La Voix de l'Espérance, une émission quotidienne qui vous est proposée par AWR, la Radio Mondiale Adventiste, est présentée par Oscar Miani. Merci de votre fidélité à la Voix de l'Espérance à travers les ondes, par internet sur www.awr.org ou aussi grâce à votre téléphone. Aujourd'hui, au programme, dans quelques instants, ce sera votre rendez-vous santé. Ensuite, vous retrouverez votre chronique Reflet d'actualité. Et enfin, nous terminerons avec une nouvelle réflexion sur notre antenne. Il s'agit de 5 minutes pour comprendre.
Avec Destination Santé, Emmanuel Ducreuset.
Bonjour à tous. Le chocolat est à proscrire pour les chiens. Alors, quelle friandise pouvez-vous offrir à votre animal? Il a bien le droit à un petit traitement de faveur pour les fêtes, après tout. Voici quelques suggestions. Quelle friandise donner à votre animal? D'abord, ayez à l'esprit que les douceurs sucrées que nous nous accordons ne sont pas adaptées à nos compagnons à quatre pattes. Ainsi est-il totalement déconseillé de donner du chocolat à un chien. Cet aliment est toxique pour lui en raison de la théobromine qu'il contient. Ce conseil est également valable pour les oignons, l'ail, le raisin et l'avocat, également néfaste pour les animaux de compagnie. Reste que vous pouvez donner des petits extras de temps en temps, dans la mesure où les quantités sont adaptées à la taille de l'animal et données en dehors des repas des maîtres. Par exemple, un cube de fromage, un dé de viande, une rondelle de saucisse ou encore une rondelle de pomme. Côté quantité, sachez que donner 5 g de viande, une cuillère à café à un chat de 3 kg, revient à donner en friandise un steak de 116 g à une personne de 70 kg. Ou encore, offrir une tranche de saucisson à un chien de 10 kg revient à donner 7 tranches à une personne de 70 kg. Donc, ne le gavez pas. Si vous optez pour des friandises industrielles, il est préférable de demander conseil à votre vétérinaire. En effet, les circuits de distribution offrent des qualités très différentes. Reste la dernière option, lui donner une croquette de bonne qualité prise dans la ration quotidienne. C'est la solution la plus saine et la moins onéreuse.
Avec Destination Santé, Emmanuel Ducreuset.
Bonjour à tous. Vous avez les yeux très secs, et si la cause de cette gêne résidait dans les médicaments que vous prenez, c'est en effet l'un des effets indésirables de certaines molécules. Sensation de brûlure, rougeur, impression d'avoir du sable dans les yeux, sensibilité à la lumière, la sécheresse oculaire est une maladie fréquente. Elle touche en particulier les personnes âgées et les femmes. Et elle n'est pas anodine puisque dans les cas graves, des lésions de surface de l'œil et des troubles visuels sont possibles avec un risque de cécité. Alors c'est quoi une sécheresse oculaire? Cette maladie se caractérise par la diminution de la qualité et de la quantité du film lacrymal, entraînant une inflammation et des lésions de la surface de l'œil, notamment la cornée. Quelles peuvent en être les causes? Elles sont nombreuses, et l'une d'entre elles est souvent méconnue, l'action de certains médicaments. Des médicaments administrés par voie oculaire, des antiglaucomateux, des anti-inflammatoires non stéroïdiens, des antihistaminiques H1 ou ceux administrés par voie intravitréenne. Des médicaments administrés par voie orale sous forme injectable, comme les médicaments à effet atropinique utilisés dans le traitement de l'incontinence urinaire, les allergies et les dépressions. Enfin, l'utilisation de plusieurs collyres et la présence de conservateurs dans certains médicaments oculaires augmente aussi ce risque. Si vous ressentez des symptômes de sécheresse oculaire, faites le point sur vos prescriptions. Si vous soupçonnez l'un de vos médicaments, demandez conseil à votre médecin pour adapter votre traitement.
Vous aussi, votre santé vous intéresse? Alors si vous souhaitez en savoir plus, demandez-nous l'ouvrage « Santé et bien-être » des éditions Vie et Santé. Nous aurons le grand plaisir de vous en adresser un exemplaire gratuitement sur simple demande de votre part à france@awr.org.
Vous êtes toujours à l'écoute de la Radio Mondiale Adventiste et c'est votre émission La Voix de l'Espérance qui vous est présentée par Oscar Miani et toute l'équipe pour vous accompagner jour après jour. Si vous souhaitez avoir notre grille des programmes ou bien si vous voulez vous adresser à nos invités, eh bien c'est très simple, il vous suffit de nous le faire savoir, soit depuis notre site internet sur www.awr.org ou alors par courrier à IEBC, La Voix de l'Espérance, boîte postale 100 77193 Damary-Lélis, Cedex.
Reflet d'actualité.
Une approche chrétienne de l'actualité de la semaine.
Amis auditeurs, bonjour. C'est aujourd'hui Claire Bernol, journaliste, qui propose la réflexion de la semaine. Pour des raisons techniques, c'est le pasteur Philippe Penner qui prêtera sa voix pour que cette chronique puisse parvenir jusqu'à vous.
Je déguste le fait divers comme d'autres ouvrent de grands yeux sur les curiosités du musée d'histoire naturelle. Pour une journaliste, une telle phrase a valeur de confession. Car tout en faisant du fait divers une rubrique à part entière, ma profession ne manque pas de la tourner en dérision. En témoignage, sa façon de la rebaptiser, rubrique des chiens écrasés. Comme si le contenu de cette catégorie ne pouvait qu'être négligeable au regard de tout ce que l'actualité recèle d'événements modifiant le visage du monde. En écoutant la télé et la radio, en lisant la presse, nous avons pu nous en rendre compte encore dernièrement. Tandis que Donald Trump n'a pas encore dit son dernier mot après une élection présidentielle dont son rival Joe Biden est sorti victorieux, tandis que la crise sanitaire et sa gestion ne cessent de faire débat, qu'un G20 dématérialisé se tient envers et contre tous et que la liberté de la presse ne quitte pas le devant de la scène, hier avec les caricatures de Mahomet, aujourd'hui avec l'interdiction partielle de filmer ou photographier des forces de l'ordre, le procès de Jonathan Daval vient de s'achever. Le mari assassin qui a étranglé sa femme Alexia avant de brûler son corps a été condamné à 25 ans de prison. Une sentence dont il n'a pas fait appel. Avait été retrouvé inanimé dans sa cellule et transporté à l'hôpital, au moment où on apprenait que Michel Fourniret, l'un des plus grands tueurs en série français, avait été retrouvé inanimé dans sa cellule et transporté à l'hôpital. Selon le journal Le Monde, fin octobre, il aurait avoué à la justice avoir enterré sa tristement célèbre victime, Estelle Mouzin, aux alentours de son ancienne propriété, le château de Souteau, dans les Ardennes. Dans l'actualité, comme dans la vie, le pire côtoie le meilleur. L'histoire particulière et la grande histoire s'entremêlent. Comment expliquer l'intérêt que beaucoup, comme moi, éprouvent pour les faits divers? Car sur les médias, à tort ou à raison, suivent les évolutions de telles enquêtes ou se font écho des faits des plus noirs. C'est que cela correspond à un public. Sans doute, tour à tour, nous identifions-nous aux victimes et prenons-nous les bourreaux comme repoussoirs. Les auteurs des crimes suscitent moins notre compassion que les pauvres parents qui ont perdu un enfant. Et pourtant, leur monstruosité nous ferait-elle autant réagir si elle n'était pas potentiellement, du moins, un peu la nôtre? Ces émotions fortes nous aimantent malgré nous. Tout du moins, elles retiennent notre attention. Elles nous donnent envie de prendre parti. Même si nous ne disposons pas de tous les tenants et aboutissants d'une affaire, difficile de rester indifférent, de ne pas émettre d'hypothèses, de ne pas avoir envie de savoir ce qui s'est vraiment passé. Au-delà de la fascination morbide, je crois que toute tragédie particulière nous parle de notre humanité commune, de nos emportements, de nos pulsions, de nos sentiments les plus forts et les plus intimes, du franchissement des limites. Toutes choses que nous avons en partage avec le commun des mortels et qui peuvent se révéler, nous révéler, dans des situations complexes. Peut-être ne pas nous révéler dans l'intégralité de notre personnalité, mais révéler que nous ne sommes pas aussi bons que l'image que nous voulons donner de nous-mêmes, ou aussi protéger des autres, de nous-mêmes, des circonstances, que nous voudrions le croire. Peut-être y a-t-il quelque chose à analyser dans la résonance éventuelle que trouve en nous le dévoilement des plus sombres recoins de l'âme humaine. Quels souvenirs, quelles peurs, quels sentiments ou réactions cela réveille-t-il en moi? Est-il possible qu'il y ait une leçon à en tirer? Ou faut-il s'entraîner à détourner le regard du fait divers pour se concentrer sur des événements sérieux qui changent le monde de façon visible? C'est moi, en tant que journaliste qu'en tant que chrétienne, que je me laisse interpeller par cette question. En réfléchissant, je me suis souvenu de ma rencontre avec un jeune homme, partageant sur le ton de la plus grande surprise sa lecture d'épisodes bibliques sensationnels, au sens où on emploie aujourd'hui ce terme pour parler d'un certain type d'information. Il découvrit que la Bible n'était pas bénie oui-oui, qu'on y trouvait du sang, de la sueur, des larmes, des récits de viol, d'inceste, de meurtre, de jalousie mortelle, d'héritages spoliés, d'immenses patrimoines réduits en cendres, de rois prestigieux sombrant dans la schizophrénie, de prophètes épousant une prostituée, d'enfants volés ou massacrés. « Tout y est !» s'exclamait le jeune homme en question. « Et si rien ne nous est épargné, je veux croire que c'est parce que nous pouvons en tirer un enseignement. Depuis la nuit des temps, ces récits nous suivent et nous ressemblent. Non, la Bible ne se contente pas d'un discours sentimental sur la grandeur de la foi et la beauté de l'espérance. Elle éclaire nos méandres intérieurs les plus obscurs. Comme pour nous montrer que Dieu connaît déjà nos errances et nos désastres, qu'il est parfaitement au courant de tout cela quand il propose son salut à l'humanité. Mais quand tout dérape un peu, beaucoup, dangereusement, dramatiquement, l'offre de rédemption de Dieu reste sur la table. L'option n'est pas retirée du contrat, fût-il mise à mal par un acte qu'on pourrait qualifier d'impardonnable à vue humaine. Dès lors, je ne peux que faire preuve d'humilité, y compris en pensant à quelqu'un qui a commis l'irréparable. Je quitte la posture du spectateur fasciné, par exemple, par l'extrême noirceur d'une logique meurtrière, pour reconnaître, avec la philosophe Hannah Arendt, une forme de banalité du mal qui sommeille en chacun de nous. Un mal dont je ne suis pas exempt, que je ne peux pas être sûr de neutraliser par mes propres forces, mais qui n'est pas une fatalité non plus. Malgré les tragédies qui nous frappent, malgré le mal que nous faisons et le bien que nous ne faisons pas, que nous soyons victimes ou bourreaux, le Dieu de la Bible nous propose une issue.
Here is Adventist World Radio, die Stimme der Hoffnung.
Questa è la radio mondiale adventista.
La voce della speranza.
Your promises with me, like a really faithful friend. It whispers in my ear, not too low, and you will see him come. Your promise gives me strength. It's like a lighthouse in a storm that pushes me to fight and to look for what it's unseen. I cannot help it, your joy fills my soul. Imagine the day I see you coming for me. The pain and sorrow will all leave behind. We finally live how we was meant to be. Your promise gives me life. Even when I am in pain, it's like you make it shine to remind me that there is a better world. And I'm still waiting for you.
I'm just waiting,
telling everyone I find that this life is a bliss. The pain and
I'm going where the wicked shall cease. Down here,
my Lord.
This world is not my home. I'll be awake to see Christ coming one morning.
C'est toujours la Radio Mondiale Adventiste. Vous êtes à l'écoute de La Voix de l'Espérance avec Oscar Miani au micro et toute l'équipe. Bienvenue à vous qui venez de nous rejoindre. Vous nous suivez en ondes courtes sur les 6155 kHz dans la bande des 49 mètres à 4h30 en temps universel. À 8h, c'est sur les 15145 kHz dans la bande des 19 mètres et à 20h sur les 9780 kHz dans la bande des 31 mètres que vous pouvez nous écouter. Et maintenant, je vous propose de poursuivre avec votre émission 5 minutes pour comprendre. Et c'est en partenariat avec Hope Channel France que vous pouvez aussi visionner sur le site hopechannel.fr.
Cinq minutes pour comprendre avec Élise Lazarus.
Il y a une expression qui est un petit peu vieillotte que les gens de l'âge de mes parents peut-être disaient. C'était « Ah, celui-là, c'est un vrai petit sang ». Ce qui est intéressant, c'est que c'était rarement dit de façon positive. En général, on disait ça à des gens qui voulaient se faire bien voir par tout le monde, qui étaient un peu hypocrites, qui se donnaient un genre, qui prenaient les autres un peu de haut. Et du coup, ça me fait me poser la question, ça veut dire quoi être saint? Parce que c'est une expression qui vient de la Bible. Donc est-ce que c'est cette idée de donner seulement une impression extérieure, d'être bien sous tout rapport? Souvent, quand on utilise le mot « saint », on pense à la perfection, à des gens qui auraient réussi à s'élever plus haut que les autres, à être bien meilleurs que nous tous, pauvres populaces là en bas, qui nous démenons pour essayer d'être à peu près bien. Et en plus, y a des textes qui existent dans la Bible qui peuvent donner cette impression-là. Il y en a un, c'est Pierre qui écrit une lettre, et il dit quelque chose, je trouve ça super dur à vivre. Il dit « Mais de même que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, devenez saint dans toute votre conduite. » La pression. Donc, en gros, il est en train de dire, si vous voulez être à la rencontre de Dieu, soyez saint. Si ça veut dire que je dois être parfaite, je suis mal barrée quand même. Parce que, je me permettrai pas de dire pour vous, mais moi, je suis pas parfaite, très très loin de là. Je fais de mon mieux, j'essaie de m'améliorer, mais non, je suis pas parfaite. Et puis dans tout le Nouveau Testament, là, quand on nous parle de l'Église, on nous dit, ce sont des saints, on écrit aux saints. Ils étaient tous saints, ils étaient tous super à cette époque-là. Mais en fait, c'est parce que saint, ça veut pas dire parfait du tout. On se trompe quand on dit que sainteté, ça veut dire perfection, non? En fait, saint, ça vient de l'idée que quelque chose est mis à part. On trouve ça déjà dans la Bible. Dieu faisait ça même dans l'Ancien Testament. Il prenait quelque chose tout à fait banal. Une tente, un bout de montagne, des gens. Et il leur dit, toi là, je te choisis pour quelque chose de particulier, je vais te mettre à part. Et comme je suis là et présent avec toi, tu deviens saint. C'est dingue. Parce qu'en réalité, la sainteté, c'est pas tellement par rapport à moi qui serait, ou vous, qui serait meilleur que les autres. Ça enlève cette pression. L'idée là, il faut qu'on soit absolument parfait, on enlève. L'idée d'être saint, c'est vrai, ça veut dire on va essayer de faire de son mieux. Mais c'est surtout on a envie de rentrer dans une relation avec Dieu, d'essayer de comprendre qui il est, d'essayer de comprendre ce qu'il veut pour notre vie, et c'est surtout accepter de dire, avec tous mes défauts, Dieu m'a quand même choisi pour avoir une relation avec lui, pour être appelé enfant de Dieu. Et en réalité, c'est ça être saint. C'est dire oui, je sais que Dieu m'a mis à part parce qu'il veut avoir une relation avec moi et me sauver. Et du coup, je vais reprendre le petit texte que j'ai lu tout à l'heure, celui que Pierre avait écrit. Parce que je vais relire ce même verset, je vais juste dire ce qu'il écrit juste après. « Mais de même que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi devenez saint dans toute votre conduite. Puisqu'il est écrit, vous serez saint, car moi, Dieu, je suis saint. » C'est pas moi qui suis parfaite, c'est Dieu qui est parfait. Et parce que lui m'a choisi, parce que lui veut vous choisir, je peux être appelée sainte, et vous pouvez, si vous le voulez, être appelée saint. Alors bien sûr, quand je dis que Dieu me met à part, ça ne veut pas dire qu'il me met dans un petit coin loin de tout le monde et que j'ai plus de contact avec les autres. Au contraire, quand Dieu met à part quelqu'un, c'est pour qu'il se mette au service des autres, au service du monde. Et il y a plein de façons de le faire. Ça peut être dans les relations amicales et d'amour qu'on va avoir avec les autres. Ça peut être pour un service particulier. Pour certains, ça peut être devenir un pasteur, un prêtre, quelqu'un qui sert Dieu. Ça peut être dans le métier qu'on a. Ça peut être simplement dans le sourire qu'on fait aux gens. La différence, c'est on rentre dans une relation particulière avec lui.
C'était 5 minutes pour comprendre, en partenariat avec Hope Channel France.
Connaissez-vous la vie, la vraie? Vous aspirez à ce que la vôtre soit meilleure? L'IEBC, l'Institut de la Bible par correspondance, peut vous aider. Ses cours sont gratuits et à votre rythme. Retrouvez-nous vite sur www.iebc.org et vous verrez, votre vie va changer. Parce que croire, c'est la vie.
Si vous souhaitez réécouter ce programme ou bien le partager avec vos amis, retrouvez-nous sur www.awr.org. Vous pouvez aussi nous suivre par téléphone. Depuis la France, il vous suffit de composer le 01 80 14 44 77. En dehors de France, vous faites le 00 33 puis le 1 80 14 44 77 et depuis les États-Unis, eh bien vous composez le 1 712 432 9978. Et pour nos coordonnées postales, la Voix de l'Espérance, IEBC, boîte postale 100 77 193 Damary-Lélis, CEDEX. Votre émission est pour aujourd'hui terminée. Vous écoutiez la Radio Mondiale Adventiste et c'était La Voix de l'Espérance. Vous étiez en compagnie d'Oscar Miani. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure pour votre nouveau programme. Au revoir.